Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En 1993, l'écrivain Gabriel Matzneff publiait La prunelle de mes yeux, un volume de son journal couvrant la période de mai 86 à décembre 87 et racontant ses amours romantiques avec une adolescente de 13 à 14 ans alors qu'il en avait lui-même 50. Le 2 janvier dernier, l'adolescente devenue femme publie de consentement sa version de ce qui apparaît soudain sous sa plume comme une relation d'emprise violente, pathétique et dont elle a mis, dit-elle, des années à se remettre. Dans ce que l'on appelle Saint-Germain-des-Prés, le livre fait depuis l'effet d'une bombe à fragments. On se souvient du coup que Matzneff, devenu lauréat du prix Renaudot en 2013, a consacré une bonne part de son œuvre à narrer ses conquêtes avec des mineurs, filles de 14 ou 13 ans, mais aussi garçons de 10 ou 11 ans, sans que nul n'y trouve à redire. On se souvient que la seule à avoir publiquement protesté, la journaliste Denise Bombardier, s'est vue traitée de salope et de mal baisée par certains des meilleurs esprits de Paris. On se souvient qu'après avoir fait signer des pétitions à gauche pour la dépénalisation de la pédophilie dans les années 70, Matzneff a entretenu à droite des amitiés du meilleur goût avec des personnalités fières d'être asociales. Et tandis qu'un effet de meute soudain vertueux joue à plein, tandis que le parquet se décide à ouvrir une enquête cette fin de semaine et qu'un ministre de la Culture jusque-là invisible cherche ses mots, tandis que la militante féministe Caroline De Haas se trouve des points d'accord avec la militante anti-mariage gay Denise Bombardier, et tandis que le communiste Jean Rista défend l'écrivain de droite Gabriel Matzneff, un milieu littéraire et médiatique en pleine confusion redécouvre, sous les effets de style, la violence de l'acte littéraire. Quand et comment l'a-t-il désappris ? C'est ce sur quoi on va essayer de réfléchir. Avec aujourd'hui Michel Idel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, éditrice aux éditions des Femmes, cofondatrice de l'Alliance des Femmes dans la démocratie et co-auteure de MLF Psychanalyse et Politique en 2 volumes, 50 ans de libération des femmes publiés aux éditions des Femmes. Blandine Rinkel, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ne va pas tout dire, vous êtes beaucoup de choses, vous êtes musicienne, vous êtes danseuse, vous avez travaillé avec Bertrand Burgala, vous êtes membre du groupe Catastrophe, et vous êtes aussi auteur de 2 romans, L'abandon des prétentions, sorti en 2017, portrait mi-tendre et mi-ironique de Janine, une femme mûre inspirée de votre mère, sélectionnée pour le concours du premier roman, finaliste du premier prix Jean-Marc Roberts, et cet automne vous avez sorti Le non-secret des choses, une sorte de roman balzacien décalé, si je puis dire. Vous êtes aussi co-auteur avec Pierre Jouan de La nuit est encore jeune, le manifeste du groupe Catastrophe.
Voilà.
Et Denis Colin, bonjour.
Oui.
Philosophe, vous avez beaucoup écrit sur Karl Marx, mais vous n'êtes pas un marxiste orthodoxe, si j'ai bien compris. Vous avez aussi écrit sur Machiavel, Vico, Spinoza et Marcuse. Et vous avez publié la semaine dernière dans Marianne un article sur cette affaire Matzneff, dont on va parler tout à l'heure. Alors d'abord, un bref tour d'horizon, où est-ce qu'on en est ce week-end au moment où le parquet annonce l'ouverture d'une enquête et où il y a cette espèce de tourbillon général autour de l'affaire Matzneff, où tout le monde semble paniquer. Qu'est-ce qui veut donner une première impression, Michel Idel ?
Je comprends pas bien cette espèce de nouveau remous dans la société. Vanessa Springorin a écrit un livre où elle dit sa vérité, comment elle a traversé cette relation avec Gabriel Matzneff. Et ça s'inscrit dans le temps long de la libération des femmes, qui a commencé il y a à peu près 50 ans, un tout petit peu plus, et qui a permis aux femmes de trouver leur parole propre, de pouvoir s'exprimer. Elles s'expriment. C'est normal, c'est bien, c'est positif, c'est démocratique, voilà.
D'accord. Blandine Rinkel ?
Moi, ce qui me frappe surtout, et ce qui me, c'est aussi parce que je suis plus jeune, je suis stupéfaite de découvrir la complaisance vis-à-vis de la pédophilie ou pédocriminalité, ou je ne sais pas comment l'appeler, que je découvre, dont je n'étais vraiment pas au courant. Et évidemment, il y a des vidéos qui ressortent, il y a plein de choses et... Voilà, c'est surtout ça que m'inspire.
Oui, on a vu les vidéos sortir avec effectivement les vidéos d'apostrophe. On a lu aussi les extraits de livres de Madzenev pour ceux qui ne connaissaient pas. Il écrit par exemple « Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la 10e à la 16e année et qui me semble être le véritable troisième sexe. » En 77, il a signé cette fameuse pétition de soutien à trois pédophiles condamnés à 3 ans de détention préventive par la cour d'assises de Versailles pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs. Texte co-signé par Aragon, Ponge, Barthes, Beauvoir, Deleuze, Glucksmann, Geoghegan, Bernard Kouchner, Jack Lang, Madzenev, donc Catherine Millet, Sartre, etc. Cet effet collectif qu'on semble redécouvrir aujourd'hui est une des raisons du tourbillon au-delà de la publication du livre de Vanessa Springora, qui est en fait assez complexe et assez nuancée dans son appréciation des choses. Denis Collin, vous avez publié dans Marianne un article dans lequel vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé.
Oui, parce que je crois qu'il faut resituer ça dans le temps long, justement. Nous vivons, en gros, allez, on va dire les choses rapidement, depuis 68, dans la transgression systématique. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les barrières traditionnelles doivent être transgressées. Et effectivement, la barrière des âges, celle qui sépare les adultes des enfants, mais devait tomber sous le coup de cette transgression généralisée. Et je crois que c'est ça qui arrive. Alors, l'affaire Madzenev en tant que telle, on a l'impression parfois que c'est un peu un gadget médiatique, parce que cette affaire Madzenev est connue depuis longtemps. Les écrits de Madzenev sont publics. Et régulièrement ressortent aussi d'autres propos, d'autres personnages politiques connus, par exemple, qui vont dans le même sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir la contradiction dans laquelle nous sommes aujourd'hui, entre d'un côté la condamnation absolue et légitime de la pédophilie, et d'autre part la volonté de tout en transgresser. Je ne sais pas, je voyais encore il y a bien longtemps une publicité pour le journal Le Monde, que je ne lis plus depuis au moins 20 ans, mais j'ai reçu une publicité qui me disait qu'on allait étudier la sexualité des adolescents et la volonté d'abolir les frontières traditionnelles. Mmh. Je trouve que ça tombe assez mal, ce titre-là. Mmh. Mmh. Je ne sais pas pourquoi.
Dans votre article, vous citez Sade, et vous dites, vous citez Sade en train de dire plutôt, « Il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand il bande ». Vous dites la domination sur les femmes trouve son prolongement dans la domination sur les enfants, et la racine de toutes ces formes de domination n'est rien d'autre que la mise en esclavage de l'homme par l'homme. Vous vous enchaînez sur Freud pour montrer que Freud instaure le règne de la loi qui protège des pulsions sadiennes et définit les places. Vous critiquez en filigrane toute la logique de l'anti-Oedipe, en fait, c'est-à-dire cette idée qu'il faut abolir la société patriarcale, c'est ça?
Oui, absolument. Enfin, je ne sais pas s'il faut maintenir la société patriarcale. De toute façon, c'est une critique qui à mon avis, est hors de propos, parce que de société patriarcale, chez nous, du moins, je sais bien que dans d'autres régions de la planète, les choses sont un peu différentes, mais chez nous, elles n'existent plus, puisque juridiquement, il n'y a plus de priorité des hommes sur les femmes. Par contre, ce qui est mis en cause, c'est la séparation des sexes, l'existence qu'il y a des hommes et des femmes, que l'humanité, elle est homme et femme. Et c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui supprimer. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé qu'on transgressait tout. Je me souviens, l'anti-Oedipe de ça commence par « Freud, c'est papa-maman, il faut en finir avec ça. Mm-hmm. Il faut donner place aux machines désirantes. Mm-hmm. » Enfin,
oui, alors c'est ça. Vous faites le lien dans votre article, entre les attaques dans les années 70, notamment contre la société patriarcale, et aujourd'hui, des gens qui luttent contre la pédophilie, mais au nom d'un féminisme radical, que l'idéologie trans, par exemple.
S'il n'y a plus aucune différence, si tout doit être transgressé, si le rapport entre homme-femme, ça n'existe plus, et qu'en fait, nous sommes tous dans des genres flottants, je crois que c'est ça, binaire. Mais au nom de quoi on pourrait condamner les rapports entre des adultes et des enfants?
Michel Hidel.
On confond plusieurs choses. On confond la libération sexuelle de mai 68, ce qui est arrivé ensuite avec la naissance du mouvement de libération des femmes en octobre 68, qui justement À partir d'où on a pu dire et on a pu repérer que cette libération sexuelle était une libération de la sexualité masculine et pas du tout de la sexualité des femmes. Et donc, on tend à mélanger tout. Je crois pas qu'il y ait aucun interdit, qu'il y ait... Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on puisse comme ça généraliser. Le MLF a apporté beaucoup de liberté aux femmes d'abord, la possibilité d'exister, d'avoir une voix, d'avoir un désir. Déjà, les toutes premières réunions ont porté sur les violences à l'intérieur de la famille, justement, et puis voilà, les coups, les incestes.
C'est-à-dire que vous pensez qu'on jette le bébé avec l'eau du bain quand on attaque un peu trop les années 60 et 70?
Mais bien sûr, parce que mai 68 a été un immense mouvement de libération de la pensée, de l'expression, de l'imagination, et on peut dire que ce mouvement s'est accompli, je dirais, du côté des femmes qui ont apporté non seulement des libertés pour les femmes, mais aussi, par exemple, les premières réunions sur l'homosexualité ont été des réunions au MLF. On peut dire que la possibilité, la plus grande liberté de divorce, on peut dire que le fait, la plus grande attention portée au psychisme des enfants et au développement psychosexuel des enfants vient aussi de ce mouvement. Donc, je crois pas qu'il y ait... lieu de confondre les sadiens, si, pour le dire rapidement, c'est-à-dire ceux qui défendent une forme de perversion généralisée, je veux dire libre à eux, c'est pas voilà, qu'il y ait lieu de les confondre avec quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence d'un sujet qui commence à exister et à pouvoir dire son désir, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, etc. Je crois que ce mouvement est Vanessa Springora s'inscrit à mon sens dans ce mouvement, est un signe de vie, de santé et d'affirmation d'un être, d'un sujet désirant qui sait ce dont il ne veut pas. Et je crois, si vous voulez, que tout ce qui s'agite autour de ça montre qu'il y a une résistance absolument très très forte du narcissisme masculin qui était seul sur Terre, Dieu, le Père, l'écrivain, le Créateur, etc., et qui est obligé aujourd'hui de s'apercevoir qu'il y a de l'autre, que les femmes existent, et qu'il y a de l'autre parce que les femmes existent, alors qu'il n'y avait qu'un seul sexe qui représentait toute l'humanité jusque-là, et qu'il y a de l'autre en eux-mêmes.
Oui, Blanc Dinkel.
Je trouve très étonnant de dire que les mouvements, ce qu'évoquait Denis Colin, que les mouvements aujourd'hui sont faits encore avec une idée de transgression. Je pense que l'idée de transgression, c'est une idée vieille. Enfin, c'est une idée qui était à la mode, parce qu'il y a des idées à la mode dans les années 70. Et à mon sens, c'est aujourd'hui ce qui régit la plupart des luttes, qu'elles paraissent justes ou non, à mon avis, c'est lutter contre l'idée de domination sur tous les plans. La domination sociale, domination masculine, c'est vraiment l'idée de domination et c'est tout à fait différent. Et je pense que c'est se tromper de croire qu'on est... Je me sens toujours mal, c'est peut-être parce que je suis une femme, de dire que les gens se... que je pense que les gens se trompent. Mais il me semble quand même qu'il y a une erreur dans le fait de croire qu'on est encore dans des... En tous les cas, les jeunes générations, il me semble qu'elles ne sont pas du tout des générations insouciantes qui veulent être transgressives.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas... une des choses que je cherche à dire de Nicolas, vous m'arrêterez si je me trompe, de Nicolas, c'est pas que dans les années... dans certains courants des années 70, il y avait moins une recherche... Ou en tout cas, à gauche, il y avait moins une recherche de la transgression que justement une lutte contre la domination, puisqu'après tout, les mouvements pédophiles, c'était au nom de la lutte contre la domination patriarcale. Hein. Il fallait libérer le désir de l'enfant, il fallait libérer le désir de la...
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fait avec beaucoup plus de soucis. Je pense qu'on est les générations qui arrivent sont des générations bien plus soucieuses. Je pense qu'il y a des défauts aussi dans ce souci constant. Mais c'est des générations qui, à mon avis, sont hantées par l'idée de responsabilité. On est responsable du sort fait à la planète. On est responsable justement d'anciens. Enfin, on devient responsable pour les générations de 68 du fait qu'ils aient péter plein d'interdits, j'allais dire, qu'ils aient interdit d'interdire. Et du coup, en effet, il y a eu une libération excessive de tout, enfin une sorte de volonté de vouloir jouir de tout sans entrave immédiatement. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est au contraire une inquiétude qui régit nos gestes et nos paroles.
Un désir de morale.
En tous les cas, une inquiétude morale. Je ne dirais pas un désir de morale, c'est pas une moraliser tout, mais une inquiétude. Je pense qu'on n'est pas insouciant du tout.
On parle beaucoup de la responsabilité depuis quelques jours. On parle énormément de la responsabilité de ces courants des années 70-80, beaucoup moins des transgressifs bon enfant plutôt dans l'autre camp. Et je voudrais citer parmi les soutiens de Gabriel Matzneff à l'époque, enfin dans les années où il publiait, par exemple Jean d'Ormesson, qui la critique de La prunelle de mes yeux, qui est donc le livre auquel le consentement répond, paru en 93, je crois que c'était dans le Figaro. Je vais citer juste quelques phrases, si j'arrive à les décrypter parce que c'est écrit en tout petit. La prunelle de mes yeux, cette fois-ci encore, c'est rassurant. Dès les trois premières pages, l'auteur couche ou a couché ou envisagé de coucher avec Marie-Élisabeth, avec Diane, avec Marie-Agnès, avec Anne, avec les deux Isabelles qu'on ne distingue pas très bien l'une de l'autre, avec Francesca, avec Marie-Laurence ou avec Sabine, avec Guyane, que l'orthographe de son nom sans doute pousse à des actes sanguinaires, avec Séverine, etc. Avec Vanessa, héroïne fugitive d'une passion menacée, j'en oublie. Et, écrit d'Ormesson, c'est un hamburger de corps empilés l'un sur l'autre à faire pâlir Jean-Marie Roire. Donc c'est
ça les amusait beaucoup tout ça. Hein,
on est très loin des disciples de Barthes là. On est tout à fait ailleurs. On est dans une sorte de transgression bon enfant, enfin pateline un peu. Non, qu'est-ce que vous en pensez de Nicolas?
Ce qui est en jeu, c'est la tolérance ou non à l'égard de la domination. La domination, et la domination des hommes sur les hommes, elle est la matrice de toutes les autres formes de domination, la domination des hommes sur les femmes et des hommes sur les enfants. Quand je repars de ça, il explique ça en détail. Il dit au fond, ce à quoi nous pousse la nature, c'est dans la philosophie d'Anne Boudoir qui est un texte remarquable de ce point de vue-là. Et ce que nous pousse la nature, c'est la domination. Quand il dit tout homme qui bande se prend déjà pour un despote, il met en évidence un problème absolument décisif. Et quand on lit les écrits ensuite de défense de la pédophilie, plus ou moins, qui sont développés dans les années 70 et 70-80, il procède de la même chose. Et ce qui est très curieux, c'est de voir comment une idéologie libertaire a adopté en fin de compte les problématiques qui étaient celles du Marquis de Sade. Il y a un homme qui avait très bien vu ce qu'était le sadisme, c'est Pasolini, tout.
C'est ce que j'allais dire.
Pasolini montre bien que le sadisme, c'est la domination fasciste.
Voilà. Mais alors, est-ce que justement...
C'est le problème.
Est-ce qu'une des choses qu'on n'a pas oubliées, c'est le danger de la littérature? C'est-à-dire qu'on s'est mis à lire Sade comme un auteur tranquille, enfin, et un peu comme on lit Madzenev aujourd'hui, c'est-à-dire un auteur cultivé, gentil, amusant, mais sans lien avec la réalité.
Comme on a lu Nabokov, comme Kubrick a lu Nabokov en faisant l'adaptation au cinéma, édulcorée, insouciante, solaire, oui. En fait. Comme si Lolita était un roman solaire, alors que, à mon sens, et d'ailleurs je viens de finir Le consentement et Vanessa Springora est assez claire là-dessus aussi, c'est tout sauf un roman solaire sur la pédophilie, une sorte de pédophilie enjouée. Nabokov, enfin le Lolita de Nabokov, c'est horrifiant. C'est, en fait, Nabokov prend le écrit de sorte à ce qu'on prenne le risque. Et je trouve que c'est quelque chose de très courageux, à ce qu'on prenne le risque de comprendre quelque chose au regard pédophile, mais à aucun moment il n'est complaisant avec ça, et il n'excuse, et c'est pas parce qu'on prend le risque de comprendre, disons, pour aller vite, quelque chose de mauvais ou de le mal, qu'on y adhère. Oui. Et c'est ça la... En effet, il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de risqué, en fait, dans la littérature de Nabokov, et j'ai l'impression que ce risque-là, il n'est pas... Enfin, c'est beaucoup plus innovant. La manière dont ça a été lu... On l'a rendu inoffensif, voilà. Quoi. Alors que c'était offensif.
On parlait d'un viol. Je voudrais qu'on écoute justement Nabokov parlant à Bernard Pivot, qui comprend pas forcément tout le temps, surtout au début de quoi il est question. J'aimerais qu'on écoute un extrait de d'Arel, justement comment Nabokov parle de Lolita, pour aller dans votre sens, Blandine Dunkel.
Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé à la fin par le succès de Lolita qui a été si considérable qu'on risque de penser que vous êtes le père d'une seule petite fille un peu perverse?
Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'auberge? Et il est assez intéressant de se pencher, comme disent les journalistes, sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette, que j'ai inventé en 55, a subi dans l'esprit du gros public. En réalité, Lolita, je le répète, est d'une fillette de 12 ans, tandis que M. Humbert est un homme mûr. Et c'est l'abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide entre ce vide, ce vertige, la séduction d'un l'attrait d'un danger mortel. En second lieu, c'est l'imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine, aussi banale et normale dans son genre que le poète manqué Humbert est dans le sien, en dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita, la nymphette, n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice.
Popularité factice, effectivement.
Vous parliez tout à l'heure du fait que dans les années 70, il s'agissait de libérer le désir de l'enfant. Mm-hmm. C'est vrai que les propos de Nabokov sont extrêmement éclairants sur la manière dont il a été interprété par la suite, c'est-à-dire par le détournement ou la perversion de l'abord de Lolita, justement. Et je me disais que les adultes qui ont signé la pétition pour la pédophilie, c'était par définition des adultes, c'est-à-dire que les enfants étaient muets et ils étaient, ont-ils dit, consentants. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, les enfants sont devenus des femmes. Mmh. Et elles disent ce qu'elles en pensent. Par exemple, Adèle Haenel, par exemple, Vanessa Springora, Flavie Flamand. Il est question de David Hamilton et Flavie Flamand a écrit un livre absolument remarquable sur la manière, sur le travail qu'elle a été obligée qu'elle a fait pour arriver à survivre à cette relation prédatrice, etc. Et c'est vrai qu'on voit du côté des femmes qu'elles parlent et qu'elles ne parlent pas dans la haine, qu'elles parlent dans la connaissance, qu'elles parlent pour comprendre et pour avancer dans une réparation de soi. Et voilà, c'est important. Ceux qui voulaient libérer le désir des enfants, c'était leur désir qu'ils voulaient libérer. Ils voulaient être libres de pouvoir profiter comme ils voulaient. Je veux dire, c'est encore un piège.
Enfin, il y a deux choses dans ce que dit Nabokov. Il y a d'une part, c'est un grand lecteur de Flaubert, c'est le narrateur qui imagine, un peu comme Madame Bovary imagine des choses, ou comme Don Quichotte imagine des choses. Donc il invente littéralement la Lolita. Et par ailleurs, c'est un poète raté. C'est un élément très important parce que c'est difficile tirer sur une ambulance, c'est difficile de ne pas penser à Gabriel Matzneff qui n'imagine que par rapport à lui, un peu comme le personnage de Humbert et pas comme Nabokov, justement.
À ceci près que Humbert, il s'agit d'une confession quand même. Le récit, donc la fiction que met en place Nabokov, c'est une confession d'Humbert et c'est quand même un retour sur lui où il se rend compte qu'il a fait quelque chose quand même, qu'il a violé.
Absolument.
Et séquestré il a emmené une jeune fille de 12 ans. Et c'est ça quand même la grande différence, parce que Gabriel Mazneff, quand même, sa réponse qui est parue dans l'Express là,
oui.
Récemment.
Tout récemment, cette semaine.
Cette réponse, quand même, ne montre pas le moindre début de questionnement ou de remise en question de quoi que ça. Et c'est quand même la grande différence entre le poète raté, mais qui a quand même, à la fin, la capacité de laisser un doute s'immiscer en lui, et Gabriel Mazneff qui est verrouillé, absolument autosatisfait, et qui refuse catégoriquement et avec fierté de lire le livre de Vanessa Springora, ce qui quand même démontre, dénote, pour un écrivain, je trouve, un manque quand même de curiosité, de largesse du regard et de l'écoute. Oui. Il est sourd, en fait. Oui. C'est quand même le pire défaut pour un écrivain.
Oui, il y a un
pour un homme,
autiste.
Par ailleurs, mais... Ouais.
Et c'est aussi, enfin, il y a cette idée que Nabokov fait une littérature risquée, effectivement, et que des écrivains comme Gabriel Mazneff n'ont pas le sentiment de risquer quoi que ce soit. Et c'est ça qui est le plus étrange. Parce que Nabokov ne ment pas dans ses livres, il ment dans sa vie. Gabriel Mazneff ne ment pas dans ses livres, il ment dans sa vie éventuellement quand il s'invente des histoires d'amour avec des filles. Mais dans ses livres, il donne des faits quand même qui sont quand même très compliqués. Or, il y a aucun regard. On a l'impression qu'il n'y a aucune prise de risque assumée de sa part. C'est très étrange, c'est un paradoxe très étrange.
Bah, c'est pas de la fiction, hein, chez oui, Gabriel Mazneff. C'est des journaux, c'est des récits. C'est très différent ce que met en place. Nabokov met vraiment en place une structure fictionnelle dans laquelle il prend le risque d'être dans plusieurs points de vue à la fois aussi, même si c'est Humbert Humbert qui raconte. Nous, lecteurs, on a un contexte qui est mis
Exactement.
En place, un contexte judiciaire qui est mis en place. Donc c'est toute une élaboration fictionnelle pour parler de la pédophilie qui n'a rien à voir avec les espèces d'aveux autosatisfaits d'un pédophile.
C'est ça, il y a absolument... Pour avoir un autre point de vue, il faut lire le livre de Springora. Mais dans l'œuvre de Mazneff, il n'y a aucun autre point de vue que le sien.
Mais oui, on peut penser que c'est un sentiment de toute puissance, mais plus réellement, c'est que de fait, pendant toutes ces années, tout le monde savait, personne n'a rien dit. Donc il y a un vrai défaut de la part à tous les niveaux de la société.
Denis Colin, sur la société.
La question, moi, qui m'importe, c'est est-ce que il y a un fondement à l'interdit? Puisque j'ai entendu dire, le consentement, ça va pas. Mais effectivement, le consentement, ça ne va pas. Et si on était sérieux sur cette affaire, c'est-à-dire si on partait de l'analyse de ce qui se passe dans cette affaire Mazneff et beaucoup d'autres, on dit, les enfants ne peuvent pas consentir. Et le consentement, en général, n'est peut-être pas une condition suffisante. À partir de ce moment-là, on serait obligé de remettre en cause toute une partie de l'idéologie libérale-libertaire qui nous domine. La morale du consentement, c'est souvent celle qu'on trouve, par exemple, chez l'ONGien. Et tous les partisans de l'éthique minimale. Et si on veut être sérieux, c'est à ça dont il faut s'attaquer maintenant, auquel il faut s'attaquer maintenant, c'est-à-dire à cette idéologie du consentement et à cette morale minimaliste. Et qu'il faut reprendre sérieusement les questions de morale. Voilà.
On a vu tout à l'heure que les soutiens de Mazneff ne se limitent pas aux libéraux libertaires, mais qu'on les trouve tout autant dans la bonne société, tout court.
Oui,
j'ai cité Jean d'Ormesson, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Depuis Jean-François Touzé, qui est membre historique du Front National. Il y en a plein. On peut pas. Je ne sais pas si on peut vraiment limiter les choses. Un des soutiens les plus paradoxaux en ce moment est celui de Jean Rista, qui est l'exécuteur testamentaire d'Aragon, directeur des Lettres françaises, qui est le supplément littéraire de l'Humanité, donc du Parti communiste, qui a écrit un article absolument remarquable de soutien à Mazneff, dans lequel il finit en disant, je vais pas tout citer, il explique que parmi ses maîtres et complices quand il était jeune, il a eu Balzac, Dumas, Dostoïevski, Wilde et Fitzgerald et Mazneff, et il finit en disant que ceux qui ont lu Nabokov savent qu'au fond la vraie victime ce n'est pas Lolita mais Humbert.
Je trouve ça odieux.
C'est délirant.
Je tiens à dire,
Dunkel.
Vous avez vu que c'est repris en particulier sur le site Boulevard Voltaire qui est pas spécialement connu.
Exactement.
Spécialement partisan de l'extrême gauche.
Absolument, c'est un site plutôt de droite. très à droite même.
Oui, absolument.
Absolument. C'est très étonnant ce qui est en train de se passer. Il y a une sorte de redéfinition géographique, intellectuelle, si je puis dire, selon des normes qui ne sont pas claires. Enfin, on sait pas, c'est des alliances étranges.
Mais c'est toujours la même génération, ceci étant. Est-ce qu'on a entendu des gens jeunes, plus jeunes en tous les cas, prendre le soutien de Maznev? Je pense pas, je trouve ça difficilement imaginable.
Oui,
c'est vrai qu'on sent absolument l'ancien monde et on le voit en train de disparaître quand même, c'est-à-dire la génération qui est celle de MeToo, puisque c'est vrai que c'est un mouvement qui a ramené une espèce de vitalité du côté de la parole. Est composé par des personnes qui sont nées dans des sociétés où le droit était déjà égalitaire, par exemple, où on était sorti au point de vue juridique de la société patriarcale. On est passé quand même de la puissance paternelle qui existait dans le droit de la famille, qui existait avant 70, à l'autorité parentale, c'est-à-dire au partage de responsabilités entre la mère et le père. Donc c'est vrai que la société patriarcale était le pouvoir absolu du père à la fois sur les enfants mais aussi sur la mère, et que aujourd'hui, et en plus depuis 2000 la loi sur la parité, on est passé dans un autre champ, dans une autre ère. C'est une vraie révolution anthropologique, et voilà pourquoi les jeunes femmes et hommes.
Je voudrais qu'on écoute. Je vous interromps à moitié, pardon. Je voudrais qu'on écoute une seconde une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Petite, qui est intéressante parce qu'elle est assez ambiguë sur le sujet. Elle montre une certaine tension qui est intéressante.
France Culture, Signe des temps, Marc Wetzmann.
Tu as le corps d'un enfant cygne. Et moi, j'ai des mains de velours. Et quand tu marchais dans la cour, tu t'apprenais à me faire signe, comme si tu avais eu 20 ans, comme si tu avais eu 20 ans. Ah, petite. Ah, petite. T'apprendrai à t'en mourir, à t'en aller tout doucement, loin des jaloux et des tourments, comme le jour qui va mourant, comme le jour qui va mourant. Tu as le buste des outrages, et moi je me prends à rêver. Pour ne pas fendre ton corsage qui ne recouvre qu'une idée, une idée qui va son chemin, une idée qui va son chemin. Petite. Tu peux reprendre ton cerceau et t'en aller tout doucement, loin de moi et de mes tourments. Tu reviendras me voir bientôt. Tu reviendras me voir. Le jour où ça ne m'ira plus, quand sous ta robe il n'y aura plus le code pénal.
C'est une chanson qui date de 71, si mes souvenirs sont bons. Et elle est intéressante. Elle est très longue, donc j'ai passé qu'un extrait, mais je la trouve intéressante parce qu'elle montre une tentation, elle ne montre pas un passage à l'acte. C'est-à-dire qu'elle prend en compte la possibilité transgressive, mais c'est un peu comme Nabokov. C'est-à-dire qu'il met en scène, il problématise quelque chose. Et je me demande si c'est pas ça qu'on a oublié à partir des années 60-70, la tension. On a cédé à une sorte de non-problématisation. Puisqu'on l'écrit, c'est pas grave, on peut le faire. Puisqu'on l'écrit, on est libre. Est-ce qu'on n'a pas comme ça déréalisé la littérature? Je ne sais pas qui veut répondre. Valérie Riquel.
Oui, ça me semble tout à fait différent, le morceau de Léo Ferré et les textes de Max Neff, au sens où il parle de tourment, enfin déjà dans le vocabulaire, quoi, il parle de tourment, oui. Et il parle du code pénal.
Je veux dire, oui, c'est ça.
C'est évoqué, c'est en effet, c'est un problème, c'est une inquiétude, c'est une inévidence, cette attirance qu'il éprouve. Pour une enfant, visiblement, qui a un cerceau. et évidemment, je pense que l'art, les textes doivent se soucier de ces problèmes qui sont des problèmes et s'en soucier en tant que problème. À savoir, par exemple, le désir d'un homme ou d'une femme mûre pour quelqu'un qui n'a pas la majorité sexuelle. C'est répréhensible par la loi, c'est légiféré, mais en revanche, je pense qu'on peut en parler, on peut le mettre en mots, on peut le mettre en chanson,
le mettre en
problématique. Mm-hmm. C'est tout à fait différent. Et il me semble en fait qu'à un moment, les artistes ont joui d'une sorte d'impunité pénale, en fait. C'est ça la vraie différence. Et je crois qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le cas et que sans doute, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas vécu il y a 100 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un moment d'impunité pénale. Et ça me semble complètement stupéfiant.
Bah, je me demande si c'est une impunité pénale ou une sorte de d'insouciance entretenue. C'est-à-dire que quand les jurés des Renaudot donnent le Renaudot à Gabriel Matzneff, par exemple, ce sont les mêmes qui, 3 ans plus tôt, ont songé donner le Renaudot à Marc-Edouard Nab. Il y a ce goût pour la transgression de salon qui va avec une sorte de double, ce qui est plus grave que le simple oubli de ce qui est en jeu, c'est l'absence de tension, en fait, il y a plus rien à risquer, en fait.
Ouais, et puis un défaut de lecture, j'ai l'impression aussi. Je me demande si, par exemple, le Renaudot remis à Gabriel Matzneff pour Séraphin, j'ai oublié la suite du titre. Séraphin, c'est la fin. Est-ce qu'il a été remis à Matzneff pour le romantisme qu'on associe à Matzneff, oui. Homme un peu sulfureux, écrivain, la littérature avant tout, machin, ou vraiment pour le texte? Et si c'est le cas, il y a quand même notamment un paragraphe dans ce livre où il s'agit, enfin, sur le viol, un truc vraiment sur le viol, où Matzneff relativise les actions d'un, je crois que c'est un professeur, mm-hmm. en disant au pire le monstre a tripoté quelques popotins, donné quelques baisers, taillé quelques pipes, mm-hmm. disant quand même on en fait toute une affaire et on essaye de mm-hmm. l'incriminer. Mm-hmm. En 2013, quand même. Mm-hmm. Ça me semble, je me dis, est-ce que ça a vraiment été lu? Parce que j'ai l'impression qu'en 2013, ça avait vraiment été lu. Mm-hmm. Donc j'ai un doute sur la gravité qu'on donne à la lecture aussi.
Mais c'est ça. Oui. On lit sans voir ce qui est sur la page. C'est ça qui est très étonnant, très étonnant pour un milieu littéraire. Mm. Denis Collin, est-ce que c'est pas justement, enfin, c'est une des choses qui m'a intéressé dans votre article. Est-ce que c'est pas l'occasion de réhabiliter la dangerosité de Sade? C'est-à-dire que on s'est mis à lire Sade comme un auteur finalement anodin.
Oui, c'est un auteur horrible, Sade. C'est un auteur horrible. On peut le lire qu'avec un regard critique, et d'ailleurs on peut des fois ne pas le lire du tout. Moi, je n'ai jamais réussi à lire Les 120 journées de Sodome. Je ne sais pas comment quelqu'un peut lire Les 120 journées de Sodome. Pour moi, mm-hmm. à la 10e page, je n'en peux plus. Mm-hmm. Hein. Donc c'est un auteur horrible. Mmh. Et le seul intérêt de Sade, c'est que l'horreur qu'il met en scène, elle nous renvoie peut-être à nos horreurs à nous. Mmh. Voilà, on a cru que le sexe, c'était joyeux et sympathique. Mais non, c'est pas que joyeux et sympathique, ça peut l'être, joyeux et sympathique, évidemment. Mais c'est encore Freud hein, qui montre bien que Thanatos et Eros sont toujours intriqués. Mm-hmm. Et que dans l'amour, il y a toujours Thanatos qui règne, qui rôde derrière. Mm-hmm. Et ça ne nous met pas face à cette réalité. Et de ce point de vue, ça demande, encore une fois, je vais me répéter, mais ça demande un réexamen de toutes la morale minimaliste qui est devenue dominante chez nous. Mmh. Alors je sais qu'elle est dominante à gauche, mais à droite aussi, ça, j'en suis bien convaincu. C'est-à-dire pas par hasard, hein, c'est parce que comme tout est permis, c'est parfait pour le libéralisme, tout est permis. Voulez-vous qu'on respecte les enfants chez nous, qu'on ne les respecte pas ailleurs? Bon, nous vivons quand même largement aussi grâce à ça, mmh. hein, au fait que les enfants sont réduits en semi-esclavage dans notre pays. Et puis quand quelqu'un vous dit comme ça tranquillement, les ouvriers louent bien leurs bras, pourquoi les femmes loueraient pas leur ventre? Mmh. Ça signifie bien que la transgression, elle est là. À partir de ce moment-là, plus si tout est permis, y compris est permis la pédophilie. Voilà l'ambiance dans laquelle on est. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce qui se passe actuellement, c'est cette espèce de réveil brutal auquel nous sommes confrontés. Voilà, nous apercevons que la manière de vivre et de penser qui a dominé nos sociétés nous amène à l'abîme, c'est tout, voilà.
Michel Hidel.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je remarque quand même qu'on part du livre d'une femme sur sa vie, son travail de reconstruction, de se sortir de l'aliénation, oui. d'arriver à surmonter cette prédation dont elle a été l'objet, et que finalement, on en revient absolument au fantasme des hommes sur les petites filles, sur les femmes, etc. C'est-à-dire que tout le débat aujourd'hui, finalement, porte et continue à porter sur Sade, sur Léo Ferret, sur Nabokov, etc. Donc,
C'est pas sans intérêt.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est une partie, je voulais juste dire, c'est une partie de la question, l'autre partie étant... quel est le désir des femmes, comment elles l'expriment, qu'est-ce qu'elles veulent,
etc. Il me semble que la question de fond, c'est, on va finir là-dessus parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il me semble que la question de fond, c'est que la liberté, le désir, sont des choses dangereuses. Et dangereuses à manier, on a tendance à l'oublier.
Et sans doute que la parole des femmes qui est en train de se libérer, mais n'a pas été libérée au point où les fantasmes des femmes posent problème. Autant que ceux des hommes. Peut-être que c'est justement, on arrivera à une vraie égalité quand on pourra parler de la dangerosité des femmes.
Oui, alors là, je suis pas du tout d'accord. Les sorcières, quoi.
Oui, mais justement, on n'est pas arrivé au point où elles sont dans la culture populaire comme le reste. Et on le souhaite, y arriver.
Moi, je suis pas sûre que les femmes soient dangereuses. Voilà, c'est ça.
Ah. C'est un autre sujet. That night we drank wine from the crazy well. Shot a shotgun out the window of automobile. We was young, we was wild, and we sure had our fun. Till the sheriff caught up with us and we tried to run. Now we return to earth on borrowed wings. Lifted from the shoulders of sweet dreaming angels. Beyond the world we never will reach. Cause you can't get to heaven on no borrowed wings. Borrowed wings. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, avec à la réalisation Max James et à la technique Jean-Guy Lamège. Till the boyfriend got 20 years robbing them liquor stores. Dans un instant, une histoire particulière. Some pills in a motel room a mile from his prison cell. And she sank like a stone to the bottom of the swimming pool. And she returns to earth on borrowed wings. Lifted from the shoulders of sweet dreaming angels. Now the world beyond the world she never will reach. We'll be right back.
so restless and lonesome. For in the fallow field where what's reaped is what's sown, there lies a road to ruin and it's paved with our tombstones. So if you catch my reflection in a sheet of summer rain,